Bonjour à tous, nos chers auditeurs. Moi, c'est William. Bienvenue dans ce 21e épisode de Sub Culture, une histoire de la musique actuelle. Je vais donc tout au long de cette série retracer l'histoire des genres musicaux populaires que l'on connaît aujourd'hui en accent sur les styles d'origine anglo-saxonne. Autant parler de ce que je connais. Bien sûr, ces genres de musique tirent leur base de sonorités du monde entier. J'en parlerai, mais je ferai peut-être une autre série sur l'histoire des musiques d'autres pays pour pouvoir me focaliser un peu plus sur celle-ci. En attendant, voyons d'où viennent le rock, le rap, la techno ou la house. Comment sont-ils apparus? Pourquoi? Dans quel contexte? Et comment tous ces styles ont influé sur la scène musicale francophone? C'est ce que nous découvrirons dans cette émission. Je ne vais pas pouvoir parler de tout en détail, mais je sais que vous m'excuserez si je semble oublier certaines choses. Ceci est une synthèse se focalisant sur les genres et styles alternatifs, underground, ce que l'on appelle les sous-cultures, d'où le nom de l'émission. Bien sûr, j'aborderai un peu le mainstream, le commercial, mais ce qui m'intéresse le plus ici, ce sont les rebelles de la musique, qu'ils soient révolutionnaires au sens politique du terme, mais aussi purement musical et technique. Avoir parlé de la naissance de la soul music avec des gens qui ont su marier gospel et rhythm and blues comme Ray Charles et Sam Cooke. Nous avions ensuite parlé du mythique label de Detroit, Motown. Continuons dans notre lancée aujourd'hui. Dans ce dernier épisode sur la soul à proprement parler, parlons de ce qui se faisait dans le sud des États-Unis, partie du pays connaissant le plus la ségrégation, soit dit en passant. Memphis, Tennessee, le carrefour de la musique américaine, on l'a vu, où le blues et la country se sont rencontrés pour donner naissance au rock'n'roll, au rockabilly d'Elvis Presley. Au début des années 60, ce melting pot était sur le point d'y revenir. Les clubs tournent à plein régime. Blancs comme noirs vont voir des concerts et danser, souvent séparément cependant. C'est à ce moment qu'allait se créer un des plus passionnés des styles musicaux que le monde ait entendu, parce que c'est là qu'un certain Otis Redding a trouvé son âme musicale. Il naît à Dawson, en Géorgie, grandit et travaille à la ferme, mais il veut couper les ponts avec cette vie, avec cette ville. Ce qu'il veut, c'est faire de la musique. En 62, il va à Memphis, emmenant le guitariste Johnny Jenkins, destination Stax. Un studio d'enregistrement qui a offert une chance à Jenkins pour enregistrer et peut-être pour signer un contrat. Stax est fondé en 57 par les frères et sœurs James Stewart et Estelle Axton, accompagnés de Albert. Ils installent leurs locaux dans un ancien cinéma et trouvent le nom de Stax en combinant les deux premières lettres de Stewart et Axton. C'était un endroit très convivial. Tout le monde y était heureux et amical. La politique de la porte ouverte était de mise, tout le monde pouvait tenter sa chance. Mais personne n'était professionnel, ni ne savait vraiment ce qu'il faisait. Jim Stewart est comptable à la banque. Il joue juste un peu de violon Fedro le week-end. Al Jackson et Steve Cropper sont deux jeunes musiciens qui aident au studio le jour où Otis débarque. Ce dernier est ce qu'on appelle de nos jours un roadie, celui qui décharge le matériel, le transporte pour les musiciens. Personne n'y prête vraiment attention. Pendant les sessions d'enregistrement ce jour-là, Al Jackson va voir son collègue Steve Cropper et lui dit que le roadie de Johnny Jenkins le tanne pour qu'il l'écoute chanter. Bon allez d'accord, ils veulent bien l'entendre. Et là, les poils de Steve se dressent sur ses bras. La voix du jeune Otis Redding file juste des frissons. These arms are mine. Yearning from wanting you. Il leur chante These Arms of Mine. Et là, c'est la panique à bord. Il faut absolument l'enregistrer, c'est incroyable. Le pauvre Johnny Jenkins vient de se faire voler la vedette. Il aurait peut-être dû laisser son pote à la maison. Enfin non, parce que heureusement pour nos oreilles qu'un tel talent soit découvert. These Arms of Mine est donc la première chanson sortie d'Otis Redding. Et bien qu'il ne fasse pas vraiment un hit, son ton plaidoyant, implorant, fait vibrer une certaine corde chez Steve et les autres musiciens de Stax. Tout comme l'arrivée d'Otis, tout ce qui se passe à Stax relève surtout du hasard et de la chance. À la base, le studio est créé pour faire de la country music. Il tombe dans le R&B puis dans la soul par accident et découvre tout un panel de talents juste devant leur porte dans les différents quartiers de la ville. Et c'est justement, en dehors du studio, ces quartiers de Memphis, comme dans la majorité du sud du pays, sont très ségrégés. Il y a des quartiers pour les noirs, des quartiers pour les blancs, des commerces pour les noirs, des commerces pour les blancs, des bars et des clubs pour noirs et d'autres pour les blancs et ainsi de suite. Chez Stax, tout le monde se rassemble, travaille ensemble et lie des amitiés sans donner d'importance à la couleur de peau. On peut peut-être réussir à ségréguer la société en elle-même. Par contre, le son et la musique, c'est beaucoup plus difficile. Le bruit, ça ne connaît pas de frontières ni de murs. Demandez à mon voisin qui perce tous les soirs à 20h et le dimanche à l'heure des repas, c'est inadmissible. Bref, par la radio, les jeunes blancs découvrent donc la musique noire. Mais vous connaissez le topo, on en a parlé pendant les épisodes sur le rhythm and blues. Et du coup, les endroits interdits attirent de plus en plus les jeunes blancs, comme Steve Cropper, qui ralentissent en voiture et ouvrent leurs fenêtres en passant devant les clubs pour noirs, juste pour essayer d'entendre le groove à travers les murs. Et justement, Cropper fait partie d'un groupe exclusivement blanc de R&B, The Monkees, et se produit autour de Memphis. Mais dans les studios de Stax, le bassiste Docton et lui se mettent à jouer avec le claviériste Booker T. Jones et le batteur Al Jackson, qui sont noirs. C'était leur première opportunité pour jouer à travers la division ethnique en place. Ils forment ensemble Booker T and the MGs, la section rythmique du studio qui sera la colonne vertébrale de la plupart des enregistrements de Stax. Les MGs ont été montés par Stax donc, et Otis y trouvera le genre de famille sur laquelle compter. À chaque fois, c'est convivial, festif, et les gens sur les dance floors savent que ce combo Otis-MGs va donner quelque chose d'incroyable. Même si Otis Redding n'a jamais été formé à la musique, il a un talent inné. C'est un incroyable parolier instinctivement, et il sait tirer le meilleur du groupe qui l'accompagne. Le succès de Stax en tant que label et de Otis en tant qu'artiste vont de pair, et les récompenses sont tangibles. Le petit fermier du fin fond de la Géorgie a réussi, mais en tant que noir américain, il ne peut jamais vraiment échapper à la dure réalité de la vie dans le Sud. Comme Sam Cooke avant lui, Otis répand l'idée qu'un jour un changement arrivera. La signature du décret des droits civils en 64 marque l'égalité, sur le papier seulement. Mais les manifestations pacifiques avec leur tête Martin Luther King insufflaient l'espoir que la situation allait réellement s'améliorer, en écho avec la musique d'Otis. Ses paroles mêlées à sa façon de chanter très émotionnelle résonnent dans les esprits des autres Afro-Américains qui connaissent cette réalité et attendent aussi ce grand changement. Mais la musique d'Otis n'est pas vraiment ouvertement politique. Ce sont les autres qui doivent trouver le sens profond de ces chansons, comme avec Respect. Respect. trouvé une manière nouvelle et fraîche d'écrire sur des choses que tout le monde peut comprendre, l'amour et les relations. La combinaison de son style émotionnel et sa présence très masculine sont comme un envoûtement pour les publics devant lesquels il joue. Bien ancré dans les charts Rhythm and Blues, en 65, il commence à charmer un nouveau public blanc avec ses apparitions charismatiques sur la radio ou la télévision. Surtout ce succès, Stax commence à être connu sous le nom de Soulsville, le cœur de la Southern Soul, la Soul du Sud. À New York, le producteur d'Atlantic Records, Jerry Wexler, était en recherche d'un nouveau son. Il est si impressionné par le son qui sort de Memphis qu'il s'y rend. Wexler était frustré de ne pas arriver à faire décoller la carrière de Wilson Pickett, une nouvelle recrue d'Atlantic. Jerry lui proposait des sons, Wilson ne les aimait pas. Wilson présentait des idées à Jerry, Jerry lui refusait. Il l'emmène donc avec lui dans le sud pour se trouver une inspiration commune. Il le met dans une chambre d'hôtel avec Steve Cropper et une bouteille de Jack Daniels pour qu'il travaille sur un morceau. Mais avant de s'installer dans cette chambre du Lorraine Motel, Steve fait ses devoirs. Il écoute les anciennes chansons de gospel de Pickett et y trouve l'inspiration. Une expression qu'il disait tout le temps, en criant. Un genre de signature qu'il prenne pour en faire sa prochaine chanson dans un registre plus pop. In the Midnight Hour deviendra un gros hit, mais pas avant que Jerry Wexler y insuffle un peu de New York dedans. Il s'inspire du jug, une nouvelle forme de danse pour que le rythme sur le troisième temps ait une petite fraction de seconde d'hésitation, de retard. Ayant passé Wilson Pickett à travers la machine Stax avec succès, Jerry Wexler veut retenter l'expérience avec d'autres artistes d'Atlantic, Sam and Dave. Malgré le peu de succès qu'ils ont à New York, le duo cosmopolite n'est pas convaincu que le Sud a quoi que ce soit à leur offrir. Ils sont présentés à deux auteurs-compositeurs novices, Isaac Hayes et David Porter, mais ça n'améliore pas vraiment la situation. Sam et Dave sont déçus de ce qu'on leur présente. Mais l'intuition de Wexler se révèle juste quand le duo se retrouve en studio avec Hayes, Porter, les MGs et la section cuivre. Ils trouvent leur groove, Sam et Dave sont très talentueux, mais c'est Porter qui trouve comment collecter leur énergie au mieux. Hayes et Porter passent des heures en studio, ils écrivent et testent des paroles en recherche d'un hit. Et c'est pendant une de ces longues sessions qu'ils écrivent une chanson qui établira ce que sont Sam et Dave une bonne fois pour toutes. Isaac Hayes pianote, il trouve des paroles et s'écrit « Porter, Porter, I've got it, come here, come and listen !» Porter, viens, je l'ai, viens écouter. Et David Porter qui lui répond « Hold on, I'm coming !» Attends, je viens. Et Isaac Hayes qui se dit « Quoi ? Hold on, I'm coming ?» C'est bon, j'ai trouvé le titre. Surnommé la double dynamite, le duo est explosif sur scène. Le show de Sam et Dave était chargé en adrénaline et spectaculaire, qui laisse le public dans une frénésie implorant d'en avoir plus. Au moment où les artistes Stax touchent l'Europe, Sam et Dave avaient transformé leur performance en une compétition de gladiateurs. Ils voulaient laisser la foule haletante et la scène trop chaude pour le spectacle suivant, même si le prochain était le King of Soul, le roi de la soul lui-même. À chaque fois, rien n'y fait. Otis Redding reprend la foule là où Sam et Dave l'avaient laissé et l'emmène encore plus loin. La tournée Stax pétonne la réputation d'Otis avec les amateurs britanniques de musique les lisant meilleurs chanteurs masculins au monde. À Memphis, le succès d'Otis ou de Sam & Dave inspire d'autres à tenter leur chance. Le producteur Quentin Clunch monte son label Gold Wax et se met à chercher les talents de la soul que Stax a loupé. Il avait besoin d'une star pour rivaliser avec Otis Redding. Et un soir, James Carr arrive sur son Porsche et son manager Roosevelt Jameson sait qu'il est quelque chose. Ils font écouter une démo à Quentin qui se dit que c'est vrai, avec la bonne chanson et la bonne production derrière, cette voix peut vraiment percer. Avec tous ces ingrédients, James Carr n'avait plus qu'à faire un hit, ce qu'il fait en 66 avec Love Attack. Carr fait quelques hits chez Gold Wax. Il a la chance de se produire sur les tournées populaires que les agents Alan et Pearl Walton organisent avec les plus grands noms de la soul music. Carr a d'ailleurs la voix pour être concurrent d'Otis Redding, mais il n'a pas les épaules pour supporter la pression du show business et il tombe vite dans les vices qui le tentent. Il est connu pour fumer la pipe tout le temps, pas la pipe à crack non plus, mais pas du tabac. Il aime fumer de l'herbe à toute heure de la journée et de la nuit, et c'est Roosevelt Jameson qui le réveille quand il faut, qui le canalise, qui l'empêche de trop fumer. Mais le nouveau management de Gold Wax ordonne à James Carr de couper les ponts avec son manager de toujours et meilleur ami, car il considère qu'il l'empêche de devenir une superstar. Mais sans lui, la vie de James commence à se défaire sérieusement. At the dark end of the street, that's where touché par la maladie mentale, James Carr était destiné à passer le reste de sa vie entre entrée et sortie à l'hôpital, jusqu'à sa mort en 2001. Mais il nous a laissé avec son héritage musical, un des plus émotionnels de ce qui est sorti du sud des États-Unis, et une chanson en particulier qui a sécurisé sa place dans l'histoire de la musique, The Dark End of the Street. Still away to the dark end. Si James Carr n'a pas réussi à détrôner Otis, il n'était pas le seul prétendant. Une star inattendue était sur le point d'émerger depuis le fin fond de l'Alabama pour enregistrer les premiers hits pop de la Southern Soul. Thing he's found. If she is bad, chanson signature de Percy Sledge a commencé par une jam session où il a juste laissé sa peine sortir dans sa voix en impro après une peine de cœur. Il enregistre ça à Massachusetts, une petite ville rurale du sud où les blancs et les noirs peinent à vivre ensemble, mais aussi une ville où des jeunes blancs élevés à la country music rêvaient de faire de la soul comme celle qu'ils entendaient sur la radio WLAC. Le producteur Rick Howe partage cette ambition et monte une autre formation multiethnique et culturelle dans les studios Florence, Alabama, Music Enterprises, Fame. Dans une zone où c'était compliqué de trouver du travail et encore plus de trouver à boire, la musique servait d'échappatoire. Le succès de When a Man Loves a Woman crée une onde de choc dans le business de la musique et met un coup de projecteur sur Massachusetts. La soul était en plein boom dans un endroit où il ramassait encore le coton, et ça attrape l'imagination de Jerry Wexler. Il découvre une femme là-bas et veut la sauver de cette boucle dans laquelle elle se trouvait à ne chanter que des standards de routine.
Your heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters out to see the world.
Il débauche Aretha Franklin de chez Columbia et la ramène à ses racines dans le sud. Mais pour les musiciens de Fame, Aretha est une inconnue. Mais quand elle s'installe à son piano, joue un accord qu'ils ne connaissent pas, tout le monde se jette sur son instrument. Quand ils sont tous en place, Jerry Wexler leur fait écouter une démo de ce qu'il veut pour lancer la carrière d'Aretha. Et c'est nul. Mais Spooner Oldham y met sa patte au piano électrique et leur trouve leur groove. Wexler sait qu'il tient un hit avec I Never Loved a Man, mais il ne peut pas sortir un disque sans sa face B. Dan Penn, un des musiciens, a le squelette d'une autre chanson, Do Right Woman, mais il lui manque de quoi lier le couplet et le refrain. Wexler propose, Penn écrit, Aretha propose, Penn écrit aussi. Et c'est bon, ils ont trouvé leur chanson. Mais dans une atmosphère tendue à cause de la relation volatile avec son mari Ted White, c'était la recette des problèmes. Après une altercation entre Ted et un des trompettistes qui voulait défendre Aretha face aux abus violents de son mari, le couple retourne à New York. Jerry les suit, armés seulement du squelette de la face B, Do Right Woman. Mais ils arrivent quand même à enregistrer grâce au talent d'Aretha et son travail acharné. Et les deux faces de ce disque sont vraiment plus que bien.
Take me to heart, and I'll always love you. And nobody can make me do wrong. Take me for granted, leave.
Même si les enregistrements ont été terminés à New York, c'est durant cette nuit tumultueuse en Alabama qu'Aretha Franklin découvre son âme. I Never Loved a Man couplé avec Do Right Woman, Do Right Man grimpe au sommet des charts. Le succès d'Aretha inspire toute une génération d'Afro-Américains qui n'espèrent plus seulement un changement, mais le réclament. En réintérprétant Respect d'Otis Redding, elle épelle exactement ce qu'ils veulent.
Just a little bit, mister. Just a little bit. R-E-S.
Ce respect dont elle parle renvoie au respect social, au respect entre les genres, entre les ethnies, mais aussi au respect dans le couple. La communauté afro-américaine, en particulier les femmes, se sentent particulièrement touchées par cette version et par la conviction avec laquelle elle réclame que son partenaire en amour la respecte. Aretha personnifie l'état d'esprit de l'été 67, la soul tapée dans les consciences noires grandissantes. Et à l'instar du combat de Martin Luther King, la musique reflétait l'appel à une fierté noire et à son pouvoir. Et dans les studios de Stax à Memphis, Isaac Hayes et David Porter écrivent un hymne pour Sam and Dave. Soul Man marque le fait que la soul n'est pas qu'un style de musique, c'est une manière de vivre, c'est un état d'esprit. Tout est soul, c'est un mouvement soul. Et au pic de cet été 67, le plus grand Soul Man de tous était sur le point de faire le plus gros concert de sa vie, aux côtés des géants du rock et de la pop. Otis Redding se produit devant 200 000 personnes au Monterey Pop Festival en Californie, sa première représentation majeure devant un public blanc. Durant toute sa carrière, Otis a galéré à atteindre ce public, son passage au Monterey va tout changer.
Oh, she may be weary. Them young girls, they do get weary wearing that same old shaggy dress.
Monterey ouvre les yeux d'Otis. Les barrières entre les blancs et les noirs étaient en train de tomber. Et avec son public grandissant, Otis commence à choper d'autres inspirations. L'année touchait à sa fin et il était sur le point de révéler une chanson qui marquerait un changement de direction.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia and I headed for the Frisco Bay. 'Cause I've got nothing to live for and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of a bay, wasting time.
Devant une certaine incompréhension de ses managers en écoutant Dock of the Bay, Otis dit que ce sera son premier number one. Quelques semaines après avoir enregistré la chanson, Otis et son groupe live repartent en tournée, prenant l'avion direction un concert à Madison dans le Wisconsin. Il n'arrivera jamais. Le 10 décembre 67, l'avion se crash dans les eaux glacées du lac Monona, juste à côté de Madison. Otis et toutes les personnes dans l'avion, sauf une, sont tuées. À ses funérailles à Macon en Géorgie, des milliers de personnes viennent faire le deuil du roi de la Southern Soul. Et à Stax, la perte se fait également profondément ressentir. Stax a peur de ne pas pouvoir se relever. C'est Steve Cropper qui termine Dock of the Bay et ajoute un chapitre final à l'histoire d'Otis Redding. Sitting on a Dock of the Bay devient le premier numéro 1 d'Otis, comme il l'avait prédit. Enfin, il avait son million de ventes. Stax avait réussi à offrir un hommage parfait à leur plus grande star. Quand un autre événement vient leur donner un autre coup. Un événement qui secoura l'Amérique en son cœur. Le 4 avril 1968, au Lorraine Motel, là où 3 ans avant, Wilson Pickett et Steve Cropper ont écrit In the Midnight Hour, James Earl Ray tire et tue Martin Luther King. L'intégration ethnique et raciale qu'avait insufflé la Southern Soul était mise à mal sous la pression politique. Avec MLK, ce rêve d'intégration était mort. Et une nouvelle force radicale allait arriver dans la Soul. Mais pour 5 courtes années, l'expérience du Sud avait trouvé sa voie chez Otis Redding et ses contemporains. Leur musique a reflété une trop brève ère d'espoir et de fraternité, une ère capturée une dernière fois, la nuit précédant la mort d'Otis. Et c'est encore sur cette note triste que je vous laisse. La prochaine fois, on continue dans la suite logique avec le funk. Subculture, c'est tous les lundis, 13h15 et 19h15, le samedi 11h et le dimanche 22h sur Radio FM Plus 91 FM ou via les applis Les Radios Associatives et Radio Line ou sur internet sur radiofmplus.org via l'onglet Écoutez le direct. Et vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur ce même site en podcast en cherchant Subculture dans la barre de recherche. Et moi je vous dis à plus, stay strong, stay proud, always.
Now it might be a little bit sentimental, no, no, no. But she has her griefs and cares, yeah, 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 yeah. But the soft words, they are spoke so gentle, yeah, yeah, yeah.